Justement, à propos de pouvoir du peuple, vous dites qu'il n'existe pas de barrière à l'accès au Bitcoin, mais il me semble que ça nécessite quand même des connaissances financières et économiques, voire politiques, d'une part, et informatiques, d'autre part. Donc, en théorie, le Bitcoin est accessible à tous, mais en pratique.
Le cours du Bitcoin monte et descend. Mais qu'est-ce qui justifie sa valeur? Qu'est-ce que le Bitcoin? Parlons Bitcoin, brisons le mythe, pas pour faire de l'argent, mais pour faire l'argent. Je m'appelle Emmanuel, et depuis 2017, j'ai passé des milliers d'heures à creuser le sujet. C'est parti. Salut, tu écoutes Parlons Bitcoin. Un petit peu comme les mathématiques et l'écriture ont changé l'histoire, le Bitcoin va redéfinir la trajectoire de l'humanité. Ce podcast t'aide à comprendre pourquoi. On en parle aujourd'hui dans un épisode de questions-réponses avec une personne spéciale parce que c'est ma maman. Après avoir écouté tous les épisodes précédents, toute une série de questions se sont accumulées et donc on s'est appelé pour passer à travers. Alors, si tu débutes avec le Bitcoin, c'est probablement des questions qui vont t'intéresser. Par exemple, qui contrôle la création des bitcoins? C'est quoi la différence entre le réseau bitcoin et la monnaie bitcoin? Que penser des autres cryptos? Qu'en est-il du bitcoin versus l'or? Est-ce que le bitcoin est vraiment accessible à tout le monde? Si tu as d'ailleurs toi-même des questions ou des commentaires, je t'invite à aller faire un tour sur parlonsbitcoin.com où tu pourras me laisser un message et t'inscrire à l'infolettre pour être tenu au courant des derniers épisodes et articles. D'ailleurs, j'ai posté le premier article qui est une rétrospective sur les 6 premiers mois du projet. Merci d'écouter Parlons Bitcoin, c'est parti pour l'épisode avec ma maman, reste humble, stack des sats et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Parlons Bitcoin. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial parce que je suis avec ma maman qui est une de mes plus grandes fans et qui a écouté tous les épisodes avec attention. Et aujourd'hui, elle va me poser des questions pour mettre la lumière sur les points qui étaient moins clairs. Maman, bienvenue sur le podcast.
Bien, merci Emmanuel de m'inviter. En fait, je te remercie aussi de m'avoir fait découvrir ce nouveau continent. C'est ton enthousiasme qui m'a ainsi embarqué dans l'aventure. Et comme j'ai l'esprit de la débutante, j'ai plein de questions hétéroclites à te poser. Alors, la première, qui contrôle la création totale de Bitcoin et comment?
Alors, pour la création de Bitcoin, en fait, l'algorithme, qui est donc comme une espèce de texte de loi pour ordinateur, définit certaines règles. Donc, l'algorithme dit, voici comment précisément les Bitcoins ont été créés. Donc là, il y a une espèce de tableau, pas vraiment un tableau, mais qui dit, tous les 4 ans, on va produire autant de Bitcoin. Ensuite, les 4 ans suivants, on va en produire autant. Et ainsi de suite pour définir le jour 0, la production jusqu'en 2140. Donc, on sait précisément à chaque jour, dans chaque bloc, combien de Bitcoin vont être attribués en récompense. C'est là que se fait la création. Donc, quand un mineur valide un bloc en ayant fait la preuve de travail, il va être récompensé en Bitcoin. Et ce chiffre de récompense, il est fixé d'avance. Et donc, si tu sais d'avance chaque récompense pour 100 ans, eh ben, tu sais combien de bitcoins vont être créés. Est-ce que ça répond à la question?
Ça m'en fait poser une autre, alors. Donc, en somme, on a fixé le terme d'abord, le moment où seront créés donc les 21 millions de bitcoins.
Ouais, le terme a été fixé d'avance et ensuite, le temps se déroule. Et alors, le contrat est rempli à chaque fois et on suit qu'effectivement, les termes du premier jour sont respectés. Et c'est ça qui donne la confiance aux usagers quant à la politique monétaire. C'est parce que tu sais que tu ne pourras pas dévier de cette politique monétaire. C'est un petit peu comme si on avait défini une trajectoire et qu'on avait une espèce de garantie quasiment absolue qu'elle allait être respectée pendant la vie du protocole, quoi.
Oui, donc en fixant un terme, on fixe aussi le nombre de bitcoins qui peuvent être créés par jour.
Ouais, exactement. Et tous les 4 ans, ce nombre créé par jour est divisé en deux, dans un grand événement qu'on appelle le halving, donc on pourrait traduire ça en division par deux. Et c'est ça qui définit le terme. Donc c'est vraiment, mettons, les 4 premières années, je ne saurais pas dire le chiffre comme ça, il faudrait que je vérifie, mais disons qu'on va créer, 10 millions de bitcoins, puis les 4 années suivantes, ce sera 5 millions. Et puis après les 4 années suivantes, ce sera 2,5 millions. Et puis les 4 années suivantes, ce sera 1,25 million. Et ainsi de suite, qui fait qu'à la fin, tu arrives à un moment où tu as presque plus de Bitcoin qui sont créés, et puis là, vient un jour où c'est zéro. Il vient un jour où c'est prévu que le nombre de Bitcoin suivant soit de zéro. Et donc, en 2140, à peu près là, ce serait que les mineurs ne seraient plus récompensés en Bitcoin quand ils font le travail, mais ils auraient uniquement comme récompense pour leur travail les frais de transaction que les usagers payent dans le réseau.
Ah oui, ah oui.
Et j'ajouterais à cette réponse que tu m'as posé la question, comment est-ce qu'on contrôle ça, en fait, parce que, OK, il y a un terme au jour zéro, mais comment c'est possible, justement, qu'il soit respecté? Et c'est là que le réseau Bitcoin, donc les usagers qui ont des nœuds, vont maintenir ce terme vrai tant et aussi longtemps qu'ils le font. C'est-à-dire que on définit un protocole, donc une espèce de constitution qui va définir les règles. Ensuite, un usager dit « je suis d'accord avec ce terme de l'année zéro, je trouve que c'est une bonne idée, donc moi je vais créer un nœud, je vais prendre un ordinateur, je vais installer le logiciel sur l'ordinateur, et dans le logiciel que j'ai installé, il y a les termes qui ont été écrits. Donc, quand je communique avec d'autres personnes qui ont aussi installé le logiciel, qu'on parle les mêmes termes, et donc on s'assure l'un l'autre qu'il n'y a pas plus de Bitcoin qui apparaissent que ce qui a été défini. C'est un petit peu comme si un nœud avait le film Titanic sur son ordinateur, un autre usager avait le film Titanic, puis il vérifie, ben oui, on a bien les mêmes personnages, on a bien la même durée de film, on parle de la même chose, donc on va pouvoir s'échanger, on va pouvoir partager le film à d'autres personnes. Est-ce que ça t'aide?
Oui, ça m'aide. Et ça m'amène alors directement à parler de... Donc, il y a quand même une limite. Il y a quand même une limite au système, c'est les 21 millions. Et par ailleurs, justement, parce que le Bitcoin monte, sa valeur monte parce que de plus en plus de gens en acquièrent, mais ça ne pourra plus monter une fois que la limite des 21 millions sera atteinte.
Imaginons qu'on a déjà les 21 millions qui sont sortis. Parce que, en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y en aura 21 millions. Donc, on pourrait déjà imaginer qu'aujourd'hui, les 21 millions existent. Est-ce que tu penses que ça limite sa valeur, alors?
Ça ne limite pas, mais étant donné la loi de l'offre et de la demande, si plus personne n'en demande puisqu'il n'y en a plus, sa valeur va stagner, non?
Ben, je te dirais plutôt que, d'après la loi de l'offre et la demande, l'offre serait limitée parce que tu as une offre de 21 millions. Et ensuite, donc ça, ce sera, je pense, entre guillemets, absolument vrai. Donc, l'offre ne pourra pas changer. Par contre, c'est la demande qui va fluctuer. Si, comme tu dis, il n'y a plus de demande pour une raison X ou Y, alors oui, la valeur de l'offre va baisser. Par contre, si la demande reste ou croît, à ce moment-là, la valeur de chaque unité va monter. Et à mon avis, dans le futur, la demande va continuer à croître parce que les gens ont besoin de cet outil monétaire qui est protégé de l'inflation. Donc, on serait dans un scénario avec une offre limitée et une demande qui, d'après moi, est quasiment illimitée parce que toute la planète va le demander. Chaque humain a ce besoin. C'est comme chaque humain a besoin d'eau. Chaque humain a ce besoin de pouvoir stocker son énergie. Donc, à mon avis, la valeur future du Bitcoin est très, 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 très élevée justement parce que la demande va croître de plus en plus.
Effectivement, mais alors le moyen de s'en procurer, c'est de fournir un service en contrepartie.
Ce serait en fait de travailler. Tu fournis de la valeur à un autre humain et lui, il te dit bah, « cool, je te donne des bitcoins, puis c'est ça dont tu as besoin pour avoir le service ». C'est vraiment très, très simple entre guillemets. Là. Tu seras payé en bitcoin parce que c'est juste la monnaie.
Effectivement, ça va. Et puisqu'on parle de valeur, alors justement, comment évalue-t-on la valeur du Bitcoin en fiat?
Ça prend en fait simplement deux humains, un qui a des Bitcoins, un qui a du fiat, et puis eux ensemble, ils décident un prix. Donc s'ils sont deux et qu'ils disent « Ok, moi je te donne 100 euros contre un Bitcoin », le prix, ce sera 100 euros. Et en fait, ça, c'est ce qu'il y avait peut-être au tout début, donc deux, trois personnes qui ont des échanges les uns avec les autres. Et après, se crée un marché où de plus en plus d'humains veulent vendre du Bitcoin et d'autres veulent vendre du fiat. Et donc, il y a plein de petits prix qui existent de manière dispersée. Et puis, il vient une plateforme qui va dire, « Ok, bon, ben, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais rassembler les prix sur mon site Internet. Comme ça, vous allez pouvoir acheter et vendre à un seul endroit. » Et si tu veux, cette plateforme d'échange, c'est comme un marché, elle va comme faire une espèce de moyenne des prix, en gros, qui va permettre de dire, « Bon, ben, en ce moment, Il y a 10 humains qui sont prêts à vendre le Bitcoin à 100 euros. Il y en a 100 qui veulent le vendre à 200 euros. Il y en a 300 qui veulent le vendre à tel prix, etc., etc. Et donc, il y a comme une liste de prix disponibles. Et puis, il y a le prix le plus bas qui t'intéresse toi. Et donc, ça va être ça le prix du marché, si tu veux. Donc, le prix du Bitcoin, il est fixé par aucune autorité centrale. C'est juste des individus qui disent, moi, je veux vendre à ce prix, moi, je veux acheter à ce prix. Et ça fait un prix agrégé, si tu veux, que tu peux voir sur Internet, qui va être en fait le prix de vente actuel d'une personne quelque part, quoi.
Ah oui, merci. Alors, justement, à propos de la fonction de paiement, si j'ai bien compris, ce serait dans un deuxième temps, après celle de réserve et grâce au Lightning, c'est bien ça?
Ouais, je pense que la fonction de réserve, elle est aujourd'hui, d'après moi, remplie. C'est-à-dire qu'un individu a la garantie que sa quantité de Bitcoin sur le réseau ne pourra pas être altérée. Et la fonction de paiement, elle peut se faire directement sur le réseau Bitcoin, ce qui peut être éventuellement avec des frais plus élevés, et ensuite avec des réseaux comme Lightning. Mais on pourrait imaginer aussi d'autres systèmes. On pourrait imaginer, mettons par exemple, je sais pas moi, des espèces de clés USB sur lesquelles tu aurais des bitcoins. Et donc, tu aurais une clé où c'est écrit, mettons, il y a 100 000 satoshis dessus. Puis tu pourrais l'utiliser presque comme un billet de banque, tu vois. Tu pourrais donner la clé USB. Le gars qui la reçoit, il sait que dans la clé, il peut déverrouiller 100 000 satoshis, par exemple. En fait, l'ingéniosité humaine va faire, je pense, apparaître toutes sortes de formes de paiement qui vont être basées sur le bitcoin. Lightning en étant un exemple, les clés USB en étant un autre. Tu pourras avoir des applications, mettons, je sais pas, une banque par exemple, aujourd'hui, tu sais, tu as des comptes à la banque, tu pourras aussi avoir des bitcoins à la banque et tu pourrais faire des virements de faux bitcoins. En fait, la banque, dans ses registres centralisés, te dirait oui, je les ai envoyés et tu pourrais ensuite sortir de ce réseau centralisé pour aller dans le vrai réseau bitcoin par exemple. Donc, il y a vraiment toutes sortes de façons de faire qui pourraient créer des paiements par-dessus le réseau bitcoin. Est-ce que c'est un peu mélangeant ou c'est clair?
C'est un peu mélangeant. À moi. Non, le problème, c'est que justement, tu dois avoir besoin d'une clé donc pour débloquer tes bitcoins, puisque on te recommande bien de garder ton code source à toi. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la clé. Et alors, comment, par exemple, la banque pourrait-elle faire virer des bitcoins, ou bien comment la personne qui reçoit la clé USB pourrait-elle s'attribuer les bitcoins si elle n'a pas le code à la base?
Alors, pour la clé USB, pour imaginer que la clé privée est dans la clé USB, ça existe déjà ce genre de système-là. En gros, c'est une clé USB où tu sais qu'il y a... Il faudrait que je te montre l'image là, mais tu as un poinçon que tu peux faire et que tu dois faire pour pouvoir déverrouiller les bitcoins dedans. Et tant que le poinçon n'est pas percé, tu peux vérifier que les bitcoins sont... Enfin, tu peux vérifier que la clé privée possède les bitcoins. Donc, c'est vraiment... C'est comme si dans la clé, il y avait vraiment la clé d'un coffre dans la blockchain. Ça, ce serait pour la clé USB. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails là pour te montrer, mais il faut vraiment juste imaginer comme si tu as la clé USB, que tu la déverrouilles, ce que tu peux faire qu'une seule fois, alors tu peux déplacer les bitcoins qui sont associés à la clé.
Oui, d'accord. Mais alors tu peux déplacer que le montant de bitcoin qui est sur la clé.
Ouais, c'est ça. Pour ce qui est de la banque, ce serait un petit peu comme, mettons, aujourd'hui, il y a une plateforme d'échange qui va s'appeler... Binance, sur lesquels les gens vont pour acheter des bitcoins avec du fiat. Ben, si Marc et André, ils ont tous les deux un compte sur Binance, par exemple, ben, la plateforme peut créditer le compte d'André avec les bitcoins de Marc. Le problème à ce moment-là, c'est que Marc et André n'ont pas vraiment leur clé et c'est pas vraiment leur bitcoin tant qu'ils sont sur la plateforme. Mais ça reste possible que tu te dises, bon, mettons, moi, j'ai mon compte épargne, j'ai mes clés, mais mon compte courant pour faire mes courses ou je sais pas quoi, ben là, c'est sur une plateforme qui va faire office de banque à laquelle je fais confiance pour que je puisse récupérer mes bitcoins à la fin. Ce serait possible. Un peu comme aujourd'hui, tu sais, tu fais par défaut confiance à ta banque pour faire des virements d'euros. Ben là, tu pourrais dire, avec une partie de mes bitcoins, je les mets dans une banque qui va juste faire les transferts. Ce serait une façon de faire. Après, tu peux aussi utiliser Lightning où là, il n'y a pas besoin d'intermédiaire, tu peux tout faire tout seul. Pour l'instant, ça reste un peu technique, Lightning. Là. Même moi, je commence à faire mes premières armes avec. Mais tu as cette option où tu peux aussi ne faire confiance à personne, tout faire toi-même et puis que ça marche. Il y a plusieurs voies qui vont s'ouvrir. Parce que tu sais, aujourd'hui, si la plupart des gens, ils font confiance à un intermédiaire et peut-être que ça, c'est des choses qui vont apparaître dans le futur. Je ne sais pas exactement comment le réseau de paiement va se construire au fur et à mesure. Ça va dépendre de la créativité, de l'inventivité des gens. Après, il y a des dangers parce que si tu reviens avec beaucoup de solutions centralisées comme des banques, ben là, tu as le risque que ces intermédiaires de confiance prétendent avoir plus de Bitcoin que ce qu'ils ont. Et le jour où les gens veulent les retirer, on ne peut pas les retirer, quoi, parce qu'il n'y en a pas assez. Et donc, les gens perdent leur argent. Donc, il y aura probablement peut-être des risques à avoir trop de gens dans des banques de ce type-là. Ce serait à voir au fur et à mesure que ça se crée, je pense.
Mais justement, parce qu'une de mes questions, c'était sur le danger des plateformes aux mains desquelles on abandonne les clés. Il me semble que tu en as parlé dans un épisode. Et donc, là tu repars quand même sur les plateformes, si j'ose dire.
Ouais,
c'est quand même dangereux, quoi.
C'est dangereux dans le sens où, le moment où tu fais ça, tu risques de perdre l'entièreté des bitcoins que tu leur as attribués. C'est là que le danger réside, en fait. Mais d'un point de vue du réseau Bitcoin, lui, il est aveugle à ça. Que toi, tu perds tes clés parce que tu as fait confiance à quelqu'un, le réseau s'en fout, quoi. Donc, si tu veux, les usagers qui ne participent pas à ce genre de pratiques, ils ne sont pas impactés, en fait. Ce seraient vraiment les gens qui auraient fait confiance à quelqu'un qui n'était pas digne de confiance, qui vont perdre leur argent. Mais ça, c'est, d'après moi, un fonctionnement qui a du sens, dans le sens où si tu donnes les clés de ta voiture à quelqu'un qui n'est pas digne de confiance et qui casse ta voiture, ben, tu sais, ta voiture est cassée, puis c'est ta faute. Tu vois. Enfin, c'est ta faute. C'est la faute de l'autre personne, peut-être, mais tu es responsable de ce que tu fais avec tes clés. C'est pareil pour une maison, en fait. Si tu laisses tes clés devant chez toi et puis que quelqu'un te cambriole, éventuellement, c'était peut-être pas une bonne idée, quoi. Donc, je pense que les gens vont être petit à petit responsabilisés sur l'usage de leurs clés. Donc, s'ils prennent des risques, ils vont en subir les conséquences. Et ça, c'est le fonctionnement normal de la vie, quoi. Si tu conduis sous et que tu as un accident, ben c'est comme ça que ça se passe dans le vrai monde, quoi. Si tu prends des risques, il y a des conséquences qui s'en suivent. Donc, c'est comme ça que je le comprends pour l'instant.
Oui, mais comment s'assurer qu'on peut faire confiance à quelqu'un, quoi, enfin, ou à une plateforme ou...
Au jour d'aujourd'hui, je dirais aux gens de ne pas faire confiance à personne parce que tout peut se faire soi-même, dans le sens où c'est relativement simple. Et qu'ensuite, ça demandera aux gens de s'éduquer sur ce qu'ils font, quoi. C'est important de prendre le temps de comprendre qu'est-ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, en fait, on vit dans une société inversée, c'est-à-dire qu'on dit aux gens, faites confiance à votre banquier, faites confiance à votre gestionnaire de fonds, posez pas de questions, tout est géré pour vous. Alors qu'en fait, c'est pas bon parce que les gens sont pas éduqués sur les risques qu'ils prennent. Si tu achètes des actions dans des fonds d'investissement, mais que tu sais pas à quel risque tu t'es exposé, c'est pas un bon système, quoi. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Et tout le monde a l'air de dire, oui, mais, oh mon Dieu, si les gens doivent s'éduquer, ça va être compliqué. Non, mais les gens doivent s'éduquer. C'est pas possible de prendre des risques sans en être conscient. C'est dangereux, quoi. Tu sais, si tu installes une maison avec des mauvaises fondations et que t'es pas conscient de ça, ça va s'effondrer, quoi. Donc oui, ça va pas forcément être simple, mais c'est la voie à prendre. Tu es obligé de t'informer sur les risques auxquels tu t'exposes.
Oui, c'est sûr. Surtout, par exemple, maintenant, dans les banques, tu es obligé de signer une espèce de reconnaissance. Voilà, quelles sont mes connaissances à propos des produits que vous me proposez ou que je vais prendre et souscrire. Mais ça reste quand même assez formel, hein.
Ah oui, personne ne sait, en vrai. Parce que la réalité, c'est que même le gars qui travaille pour la banque, il n'est pas conscient. Le système est très compliqué, c'est dur d'évaluer les risques. Donc, tout le monde délègue sa gestion, tout le monde ne fait pas attention, mais c'est pas sain pour la société, quoi. Enfin, je pense, peut-être que je me trompe, hein.
Oui, je voudrais en revenir alors au Lightning, alors avec des questions quand même assez pratiques. Je ne perçois pas très bien ce que représentent les blockchains privés pour les entreprises. Comment peuvent-elles les utiliser et à quoi?
Ben, écoute, ça c'est une bonne question. Il faudrait demander à Fanny plus en détail, mais ça a l'air que ça ne marche pas très bien. Mais en pratique, je pense qu'une blockchain privée pour une entreprise, avec ma connaissance, c'est une forme de non-sens parce que la blockchain, elle sert à pouvoir faire des transferts de propriété, des transactions sans intermédiaire de confiance. Et c'est utile quand tu ne connais pas les gens avec qui tu travailles. Et à ce moment-là, ça te demande toute cette infrastructure qu'on a créée avec Bitcoin, avec des nœuds, des mineurs, qui fait que personne n'est obligé de se faire confiance, mais tout le monde sait que ça fonctionne. Quand c'est une entreprise, il n'y a pas vraiment cet enjeu de « je ne peux pas te faire confiance » parce que c'est des entreprises qui collaborent, donc je ne sais pas trop à quoi ça leur servirait, quoi, parce qu'il faudrait je ne sais pas en fait, je ne sais pas à quoi servirait une blockchain privée pour entreprise. Peut-être que certains vont me dire qu'il y a des cas d'utilisation, mais à mon avis, tu peux utiliser des services actuels avec des serveurs et des bases de données comme on fait pour tous les trucs. Tu sais, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant d'intérêt que ça pour les entreprises. Et c'est ça que Fanny se disait un petit peu, c'est que lui, quand il a travaillé dans le secteur avec son stage, bah, il s'est rendu compte que c'était plus du vent qu'autre chose, quoi. Donc, je sais pas, il faudrait demander à quelqu'un qui vend ce service-là, et ça se trouve, c'est juste du bullshit, parce que Tu sais, tu peux vendre plein de bullshit aux gens. Tu leur dis, hey, regardez, c'est le mot blockchain, c'est trop stylé et tout. Les gens, ils vont acheter, ils vont dire, ah ouais, trop bien, c'est blockchain, c'est beau, là, j'en ai entendu parler. Alors qu'en fait, c'est rien, quoi. C'est arrivé, je veux dire, des gens qui vendent des trucs qui servent à rien, ça arrive souvent, quoi.
Oui, oui. Et dans le même ordre d'idées, mais là, je ne suis pas sûre de ce que j'ai compris, on parle de Bitcoin réseau et de Bitcoin monnaie. Est-ce à dire que le Bitcoin réseau pourrait simplement servir de blockchain?
Alors, c'est une bonne question, je vais essayer d'expliquer les choses. Ma compréhension, c'est le réseau, c'est des nœuds, donc des ordinateurs chez des particuliers qui communiquent entre eux. Ça, c'est un réseau, donc c'est des nœuds qui s'envoient des messages. Quel message ils s'envoient? Ils s'envoient le contenu de la blockchain, qui est l'ensemble des transactions. Donc, le réseau, c'est des nœuds qui ont chacun une copie de la blockchain, qui se communiquent entre eux, les mises à jour de cette copie. Le réseau est à la fois des nœuds, mais à la fois, c'est des réplications de la blockchain. Et ça, c'est le Bitcoin, d'après moi. C'est ce réseau-là qui réplique la blockchain. Et ensuite, qu'est-ce que c'est le contenu de cette blockchain? C'est quoi ces transactions? Ben là, c'est juste des morceaux de l'espace digital qui est Bitcoin. C'est-à-dire que si tu as un morceau de 10 Bitcoins, ben tu as un morceau de l'espace des 21 millions de Bitcoins. Nous, on dit que c'est de la monnaie, mais tu pourrais appeler ça de l'immobilier digital. C'est fondamentalement le fait qu'on appelle ça de la monnaie, c'est juste nous en tant qu'humains qui utilisons ce langage-là, mais c'est juste des morceaux d'un espace mathématique en fait, qui a une taille de 21 millions. Et après, il se fait que nous, humains, ça nous ressemble à de l'argent, alors on est là, ah ben cool, j'ai 10 unités d'argent, c'est une monnaie, machin, mais fondamentalement, c'est juste des maths et tu as une propriété dans un espace mathématique limité, quoi. Et ça, c'est le Bitcoin monnaie. Donc, tu as le réseau qui sont des nœuds, qui s'envoient des copies de la blockchain. Cette blockchain, c'est un terrain mathématique digital et tu peux acquérir une partie de ce terrain-là et tu es certain que personne ne pourra te le retirer ou changer la surface du terrain total, quoi. Donc, ça ressemble à de l'immobilier digital. Et par-dessus, tu peux faire des trucs parce que c'est comme un terrain, quoi. Donc, tu peux construire des choses dessus, quoi.
D'accord. Alors, toujours dans le Lightning, pourquoi utiliser le canal d'une autre personne plutôt que de s'en créer un directement? Puisqu'il y a deux problèmes, il y a d'une part la difficulté du routage et d'autre part les frais de transaction.
Alors, tel que je comprends, c'est que si tu veux créer un canal directement avec un marchand, tu vas devoir faire une transaction sur le réseau Bitcoin principal. Ça, en tant que tel, peut prendre 10 minutes ou plus le temps que la transaction soit validée, donc la transaction de création. Et donc, j'imagine que si tu vas à la boulangerie et que c'est une boulangerie où tu vas qu'une fois tous les 6 mois ou que c'est la première fois que tu y vas, bah, tu vas peut-être essayer de voir, est-ce que je peux passer par un autre canal, comme ça je ne dois pas attendre 10 minutes. Par contre, peut-être que si tu vas à une boulangerie dans ton quartier où tu vas régulièrement, bah, tu vas y aller une fois, tu vas créer le canal, il va être prêt, et ensuite tu pourras le réutiliser plusieurs fois, quoi. Ça, c'est comme ça que je comprends. Mmh. C'est de dire on va prendre ce qui est le plus facile selon les besoins.
Et alors, puisque le montant disponible sur le canal fait seulement l'objet d'un calcul probabiliste, que se passe-t-il si les fonds ne sont pas suffisants pour effectuer la transaction?
Il faudrait peut-être passer par plusieurs canaux. Là, il faudrait demander à un expert Lightning, parce que ça, je ne connais pas assez bien. Mais peut-être qu'il faudrait passer par plusieurs canaux. Donc, peut-être que tu vas envoyer la moitié par la gauche, l'autre moitié par la droite, puis qu'au final, le tout arrive. Ou peut-être qu'il faut alimenter le canal avec plus de fonds. Ça, je ne sais pas exactement les détails. Je serai expert Lightning peut-être dans un an, 6 mois. c'est pas encore mon terrain de jeu où je suis le meilleur, quoi.
On se rappelle à ce moment-là, alors. Bien, j'en viens maintenant à la monnaie digitale des banques centrales. Qu'est-ce que c'est exactement? Enfin, dans le dernier épisode, le 14e, tu disais déjà que la monnaie est déjà digitale et que donc tu ne voyais pas très bien en quoi ça consistait. Et aussi, tant que j'y suis, pourquoi convient-elle plutôt aux pays totalitaires, par exemple la Chine, et où en est sa mise en œuvre, en particulier dans les pays occidentaux?
Alors, pour les pays occidentaux, il faudrait voir ce qu'a dit la Banque Centrale Européenne récemment. J'avais en tête 2025 pour des premiers trucs, mais ce serait à vérifier. Mais sinon, pour répondre à la question de c'est quoi une monnaie digitale de banque centrale, je pense que l'idée, c'est que au lieu que l'euro où les euros soient par exemple entre guillemets contrôlés par les différentes banques qu'il y a dans les pays en Europe, elles auraient peut-être un compte en banque à la banque centrale, ou peut-être que l'individu directement aurait un portefeuille avec la banque centrale, donc tu téléchargerais l'application, et sur ton application, tu aurais un compte à la banque centrale, quoi, directement à la banque centrale européenne, et tous les Européens auraient dans leur téléphone leur compte à la banque centrale. Et en quoi ça convient plutôt aux pays totalitaires ? Ben, ça, c'est le rêve de centralisation absolue, c'est-à-dire que en tant que banque centrale, tu as une vision sur toutes les dépenses des Européens. Ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire si un Européen achète un journal d'un journal que ou veut envoyer des fonds à un journal indépendant et que la banque centrale n'est pas d'accord, ben elle peut censurer la transaction. Si tu es considéré comme un ennemi terroriste pour une raison X ou Y, on va te couper. Tu aurais un contrôle total, donc totalitaire, sur les dépenses des citoyens. Et les dépenses des citoyens, c'est une forme de liberté d'expression. C'est-à-dire que si je décide de prendre mon argent puis de le donner à telle personne pour tel service, c'est moi qui exprime ma préférence pour ce service au lieu d'un autre. Et là, tu vas pouvoir contrôler les préférences de tes citoyens. C'est un espèce de contrôle presque mental. C'est nous qui allons dire ce que vous devez faire. Tu peux en plus ajouter d'autres choses là-dessus. Tu pourrais dire, bon, déjà, tu n'as plus de vie privée, c'est pas ouf. Et en plus, tu pourrais dire, la banque centrale dit, bah, là, je vais vous forcer le rythme de dépense. Donc, mettons, tu aurais 1 000 euros. On dit, bah, si tu n'as pas dépensé tes 1 000 euros dans les 2 semaines, je t'en coupe 100, quoi. Parce qu'il faut impérativement que l'économie fonctionne, donc consommer à tout prix. Je m'en fous ce que vous faites, mais je ne veux pas que vous gardiez l'argent, quoi. On a décidé qu'il fallait que l'argent circule, donc vous allez dépenser quoi qu'il arrive. Mais toi, peut-être que tu te dis, mais laissez-moi tranquille, je ne veux juste pas dépenser mon argent parce que j'ai ce qu'il me faut, quoi. Je ne veux pas consommer. En fait, je suis bien dans ma vie, tu sais. Mais là, tu peux le faire. Et tu peux faire tout et n'importe quoi, et l'individu n'a pas de recours, quoi. Franchement, c'est dégueulasse, quoi. Enfin, moi, peut-être qu'il y a des choses que je n'ai pas compris, hein. Mais dans ma compréhension actuelle, c'est l'antithèse de la liberté d'expression, c'est l'antithèse de la vie privée, c'est l'antithèse de l'individualité, de la création de société, parce que pas de discussion possible, enfin, bref, c'est totalitaire, c'est horrible.
C'est sûr, mais alors là-dedans, quel rôle auraient encore les banques, je vais dire, privées ?
Peut-être leur travail habituel de prêt pour des entreprises ou des particuliers, je ne sais pas exactement. Je pense que même la banque centrale ne sait pas très bien ce qu'elle fait. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de bluff de leur part, parce que la réalité, c'est que si tu veux créer un système électronique, là, ça prend du travail, ça prend des développeurs, et c'est pas si simple de faire un système qui fonctionne bien à grande échelle avec des gens que tu vas juste payer pour faire ça. C'est pas simple, donc il y a peut-être du bluff de leur part, parce qu'au final, elles ont juste vu le Bitcoin et puis elles se disent « Ah, merde, nous aussi, on va faire un truc. » Tu sais, je ne sais pas ce qui est prévu, je ne sais pas ce qui est en tête exactement.
Oui. Et en plus de créer le système, il faudrait aussi payer des gens qui contrôlent l'utilisation.
Absolument. C'est la prison, il faut payer les gardiens de prison. Enfin, c'est fou, quoi.
Oui, ça serait dingue. Et en passant, donc, dans l'épisode 13, je crois, vous disiez qu'au Salvador, le Bitcoin est devenu une monnaie officielle en parallèle avec le dollar US. Mais vous avez évoqué aussi forcément le paradoxe que ce soit un État non démocratique en plus qui l'impose, puisque le Bitcoin représente la liberté par rapport au système avec un grand S. Et je m'étais demandé si Gustavo n'était pas un peu, voire très optimiste en pensant que le peuple va reprendre du pouvoir sur celui que s'est arrogé le président.
Bien, je dirais que c'est un bon test pour Bitcoin, c'est-à-dire que si Bitcoin ne vient pas renforcer le peuple et effectivement lui permettre de reprendre du pouvoir, c'est que le Bitcoin ne remplit pas ce besoin, on va dire. C'est-à-dire que Bitcoin n'est pas à la hauteur de cette tâche, entre guillemets, et qu'effectivement, un État va avoir le pouvoir de le contrôler. Et là, oui, on peut dire que c'est optimiste de penser qu'il va le faire. Personne, je pense, peut avoir la réponse absolue. Mais mon avis, c'est que la façon dont le système est fait, c'est-à-dire que intrinsèquement, personne n'a le pouvoir unilatéral sur la chose. Tout le monde peut se l'approprier, tout le monde peut venir le modifier, l'améliorer, fait que naturellement, ça rend du pouvoir au peuple. Parce que en tant qu'État, tu ne peux pas modifier le Bitcoin. C'est comme si tu es un État, tu as une forme de souveraineté, puis là, tu arrives dans une zone où ta souveraineté ne va plus être applicable. Tu auras beau faire ce que tu veux en tant qu'État salvadorien, tu ne pourras pas changer le réseau. Donc, ça fait que c'est comme si tu avais un souverain plus fort, quoi. Une frontière dans laquelle tu ne peux pas dépasser. C'est comme si tu avais un autre État qui s'était mis dans ton État, quoi. C'est le Vatican en Italie, quoi. Tu ne peux pas contrôler ce réseau. Donc, moi, j'ai tendance à croire que ça fait que les personnes qui vont entrer dans cet État incontrôlable, donc le Bitcoin, vont prendre en puissance parce que le Salvador ne peut plus pénétrer, quoi. Ne peut plus changer les règles, tu ne peux plus rien faire. Et je pense que c'est le désir du président. Donc, c'est peut-être, je ne sais pas à quel point le pays est démocratique ou pas. Je ne pense pas qu'il soit forcément moins démocratique que ce qu'on a pu voir en Europe ou au Canada avec le Covid, mais je ne sais pas à quel point le pays est démocratique ou pas, mais je pense que son désir, c'est ça, c'est de dire, moi, bah, c'est ce qu'il dit après, est-ce que c'est vrai, je ne sais pas, mais il dit, moi, je veux que mon pays soit bien. Puis si ça fait que je dois perdre du pouvoir pour que mon peuple en gagne, ben, c'est ça qu'il va faire, parce que, comme disait aussi Gustavo, c'est que lui, entre guillemets, il perd une partie de son pouvoir, mais son peuple en gagne. Mais ça reste le président de ce peuple plus fort. Donc, il va aussi être plus fort. Il gagne aussi, tu sais. C'est juste que tu rentres dans un système où le chef d'État, peut-être, est un chef d'État qui reprend son vrai rôle, enfin son vrai rôle, le rôle qu'il est supposé avoir, c'est-à-dire, je vais suivre votre volonté de peuple souverain et je vais juste avoir ce rôle de je vais canaliser les énergies, on va pouvoir faire des grands chantiers ensemble parce qu'on vote des choses et tout, mais c'est plus moi qui suis le chef absolu, quoi. Je suis le chef d'un peuple, quoi. Et pas juste le chef qui décide tout, quoi. Donc, ce sera à voir. En vrai, on ne peut pas le savoir tout à fait, mais moi, personnellement, d'avoir mon expérience de Bitcoin et de voir justement les impacts que ça a sur l'individu en termes de prise de responsabilité, en termes de remise en question, je suis quand même confiant que ça va faire ça sur les Salvadoriens, quoi. C'est-à-dire, à force de l'utiliser, tu te rends compte que, justement, tu dois être responsable de ton risque, tu dois être responsable de ta vie, c'est toi qui dois décider des choses et tout. Donc, je pense que ça va quand même renforcer le peuple, quoi. Puis, si ça ne le fait pas, ben, c'est que c'est un échec. Et là, il faut prendre les monnaies digitales de banque centrale et on est baisé. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de chances que ça se passe bien, quoi.
Tu reparles des monnaies digitales de banque centrale. Ça n'est envisagé qu'en Europe?
Ben, je pense qu'en Chine, ils vont la lancer si ce n'est pas déjà fait. En Europe, ils en ont parlé. Aux États-Unis, je n'ai pas entendu parler, mais c'est possible. Je ne sais pas exactement. Si c'est des banques centrales, c'est pas clair exactement pour moi qu'est-ce qui se passe. C'est pas un organisme, je dirais 100% transparent où tu sais ce qui se passe. Je ne sais pas. Je ne sais pas exactement. Ouais. Je ne sais pas.
D'accord. Mais justement, à propos de pouvoir du peuple, vous dites qu'il n'existe pas de barrière à l'accès au Bitcoin, mais il me semble que ça nécessite quand même des connaissances financières et économiques, voire politiques d'une part, et informatiques d'autre part. Donc, en théorie, le Bitcoin est accessible à tous, mais en pratique.
C'est une très bonne observation. Je te dirais qu'effectivement, dans la théorie, n'importe qui peut lancer les mathématiques et avoir un accès au réseau. Donc, c'est-à-dire, n'importe qui peut lancer des maths, lancer des dés, et se créer son adresse et donc être dans le réseau. Et c'est vrai que dans la pratique, il y a des barrières, comme tu as dit, techniques, technologiques, d'éducation. Cela dit, je pense que c'est vrai pour toutes les choses dans l'histoire de l'humanité. Donc, prenons un autre exemple, la lecture, par exemple, ou l'écriture. L'écriture est une invention humaine qui est formidable pour tout un tas de choses, qui va aussi avoir des impacts négatifs pour d'autres, et qui a une barrière à l'entrée. C'est-à-dire que tant que personne t'enseigne quel est le sens des lettres, comment les écrire, comment les coller, comment lire, tu vas être dans une situation où tu vas être exclu d'un certain savoir. Mais ça reste que la lecture est accessible à tout le monde, dans le sens où, théoriquement, n'importe qui va prendre du temps avec toi va pouvoir t'apprendre à lire. Tu n'as pas de barrière autre que le temps. Et le temps, c'est une sacrée barrière, parce que si tu n'en as pas, ben tu n'en as pas. Mais c'est possible, quoi. C'est possible. Et moi, je pense que le Bitcoin, il y a toutes les barrières qui existent aujourd'hui, c'est parce qu'on est très, très, très tôt. C'est comme les emails. En 95, envoyer un email, à mon avis, c'était un truc pas simple, quoi. Pas simple, il fallait des ordinateurs qui étaient peut-être chers, il fallait une connexion Internet, enfin, c'était un casse-tête. Là, t'envoies un email dans ton téléphone pendant que tu prends ta douche, quoi. Les barrières baissent dans le temps. Et en plus, les barrières du Bitcoin ne sont compliquées que pendant un certain temps. C'est-à-dire que comprendre le réseau, ça prend un certain temps, mais une fois que tu as compris, là, c'est super limpide, en fait. Tu comprends même pas comment tu pouvais ne pas comprendre avant, tellement c'est... bah oui, c'est évident que ça marche comme ça, c'est évident que si, c'est évident que ça. Donc, dans la théorie, c'est accessible à tous. Dans la pratique, ça va se renforcer de plus en plus. Et rien que ce podcast, Je pense que c'en est la preuve, c'est que quiconque écoute cet épisode, il suffit qu'il ait 45 minutes, une heure, et il va apprendre des trucs. Donc ça, et chaque fois que quelqu'un écoute un épisode, ça baisse cette barrière pratique, et à un moment, ça devient simple. Comme lire et écrire, pas tout le monde, mais beaucoup de gens savent lire et écrire parce que beaucoup de gens savent lire et écrire. Il y a un effet boule de neige. Là.
Oui, ça a pris du temps quand même. Hein. Il a fallu que l'éducation devienne obligatoire, du moins en Europe. L'Afrique ou les pays moins avancés ou en voie de développement, c'est pas encore tout à fait ça. Quoi.
C'est pas tout à fait ça, mais c'est comme on voyait Gloire, ça peut aller assez vite. Hein. Au final, si tu veux, il y a toute une dimension où tu comprends tous les travers techniques, économiques, géopolitiques. Tu sais, ça peut te prendre des années de voir la grande image, mais en tant qu'usager, au final, tu installes une application, tu notes une série de mots et c'est fini. Donc, même au point de vue de l'usager, l'entrée, c'est pas non plus. C'est compliqué, mais c'est pas si long. Je veux dire, l'action en tant que telle te prend 5 minutes. Quoi. si tu le fais de A à Z avec quelqu'un, c'est bon, voilà, tu prends cette application, tu notes les mots, je t'envoie des bitcoins, c'est fini en 5 minutes. Même dans des pays émergents, ça sera pas très long. Puis, je lisais un article où un gars qui s'appelle Fodé Diop travaille au Sénégal avec Lightning. Je vais le rencontrer pour savoir justement de quoi il parle parce que je pense qu'il pourra nous dire que ça va assez vite quoi. Ça va assez vite, les gens ils comprennent vite ce qui se passe quoi. Surtout, nous on est dans des pays assez privilégiés donc notre monnaie certes se dévalue mais à un rythme où on s'en rend pas trop compte mais dans les autres pays, quand tu perds 30% de ta valeur chaque année, quand le besoin est là, tu comprends vite quoi. Il y a aussi cette dimension, quand le besoin est fort, la motivation est forte quoi.
Oui, d'accord. Oui, d'où l'importance de votre rôle à toi et aux autres podcasteurs, si ça se dit, pour justement un peu éduquer, entre guillemets, les gens.
Oui, mais attends, je dirais, c'est pas juste le rôle des podcasteurs, je pense que c'est aussi le rôle de chaque individu qui écoute. C'est,
okay, oui, oui.
S'il y a une chance que ce qu'il dit est juste, il faut que je me renseigne parce que éventuellement, c'est un impact majeur sur la qualité de vie de millions, voire de milliards d'humains. Donc, j'ai aussi un rôle de devoir d'enquête presque. C'est qu'est-ce qui se passe, de quoi on parle en fait. Est-ce que c'est vrai, est-ce que ça se peut. Il faut vérifier, je pense. Parce que moi je dis des trucs, mais il faut vérifier, il faut être curieux parce que ça joue, ça impacte tout le monde quoi.
Oui oui. Donc si je comprends bien, tu serais plutôt confiant dans le fait que quand les 21 millions de bitcoins seront détenus, tu penses bien que leur répartition serait égalitaire?
Non. Non. Je ne pense pas que, dans un premier temps, la répartition sera égalitaire parce qu'il y a cette réalité que le prix monte de manière exponentielle. Donc forcément, selon à quel endroit tu te situes sur l'exponentielle, tu vas avoir eu accès à un terrain plus ou moins gros du terrain total. Donc, juste pratiquement, la répartition ne sera pas égalitaire au début, quoi. Ça ne me semble pas le futur dans lequel on se rend. Cela dit, j'ai l'impression que c'est une étape nécessaire pour pouvoir ensuite créer la société que les gens veulent voir apparaître. C'est-à-dire qu'une fois que les choses sont là, là, on peut commencer à parler de comment on les répartit, qu'est-ce qu'on veut faire avec les ressources. Puis si des gens ont faim, on leur donne à manger, on les autonomise. On peut faire les choses une fois que les ressources sont sur le terrain, quoi. C'est une fois que le terrain de jeu est établi, on peut commencer à discuter. Parce que là, on n'est plus dans un scénario où on n'a pas de discussion démocratique sur comment organiser les ressources, parce qu'on a une illusion de la possibilité d'imprimer de l'argent. Donc, au lieu de répartir les ressources ou réfléchir à qu'est-ce qui serait mieux collectivement, on fait juste s'endetter et faire porter la facture aux générations futures. Donc, on n'a pas besoin de construire un truc démocratique réel. Les gouvernements aujourd'hui, n'ont plus de devoir de réponse à leur peuple, parce qu'ils ne parlent plus au peuple, en fait. Ils n'ont pas besoin que le peuple soit d'accord pour faire quoi que ce soit. Ils vont juste s'endetter et faire porter la facture après qu'ils soient partis. Et moi, je préfère un système où on a une répartition inégalitaire au début, mais qui permet ensuite de construire ce qu'on veut, qu'un système où c'est inégalitaire dès aujourd'hui. Et en plus, les gouvernements n'ont pas de devoir de réponse. Et on va vers des trucs de plus en plus graves, parce que dans le système actuel, ça appauvrit les plus pauvres et ça enrichit les plus riches. C'est un système qui est tourné sur la tête. Donc, je suis vraiment d'avis que je prépare un système où on arrête cette espèce de vice central de si tu es pauvre, tu vas être plus pauvre, si tu es riche, tu vas être plus riche. Quoi. Dans le système Bitcoin, si tu commences en étant riche, mais que tu fais que tu produis pas de valeur et que tu fais juste dépenser ton argent, ben personne va t'en donner plus tard, quoi. Tu vas juste plus avoir de Bitcoin, puis ce sera quelqu'un d'autre qui sera enrichi parce qu'il a produit de la valeur, quoi. Tu sais, si ton coiffeur travaille, puis que tu lui payes tous les jours, puis que toi tu ne travailles jamais, ben moi, tu n'auras plus de Bitcoin, quoi. C'est comme ça, quoi.
Oui, oui.
Enfin, je pense, mais bon. On ne sait pas comment il fait l'avenir non plus, hein, mais sur base de premiers principes, ça m'a l'air plus sensé, quoi.
Oui, tu as aussi dit dans un des premiers épisodes que la généralisation du Bitcoin impliquerait la décroissance. C'est un petit peu dans ce sens-là aussi?
Oui. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que dans la société dans laquelle on est, vu que ton argent vaudra moins dans 5 ans, tu es incité, ça ne veut pas dire que tu vas le faire, mais tu es incité à le dépenser aujourd'hui. Parce que si tu attends pour la dépense, tu dis, bon, moi aujourd'hui, j'ai besoin de rien, je vais attendre. Mais si tu attends, tu vas être plus pauvre. Donc, des gens vont le faire. Il y en a qui s'en foutent de s'appauvrir chaque année. C'est pas grave. Mais multiplie ça par 5 milliards, 7 milliards d'humains, ça fait que beaucoup de gens sont poussés à dépenser le plus tôt possible pour éviter que leur argent perde de la valeur. Avec le Bitcoin, c'est l'inverse. Je te dis, a priori, la demande va monter et la valeur de ton argent va croître. Donc, si tu repousses ta dépense à plus tard, tu pourras plus obtenir en échange. Donc, tu es incité à ne pas dépenser. Et ne pas dépenser, c'est de la décroissance. C'est-à-dire, je vais consommer moins aujourd'hui et je vais attendre plus tard pour consommer éventuellement si j'en ai besoin. Et donc, au lieu d'avoir une économie basée sur la consommation à tout prix, le plus tôt possible, parce que sinon, je m'appauvris, ou plutôt mon argent vaut moins, tu as une société où je consomme le moins possible parce que je sais que plus tard, ça vaudra plus. Et donc, tu changes la dynamique de ta société. C'est qu'au lieu de produire plein d'objets inutiles pour que les gens les achètent maintenant, parce que c'est toujours mieux que de perdre la valeur de l'argent, dans une société où, vu que personne ne veut acheter, entre guillemets, les objets, si quelqu'un l'achète, c'est parce que soit il en a besoin, donc c'est déjà une bonne chose, je pense, que de produire des choses dont on a besoin et pas de choses forcément superflues, ou ça va être un objet qui va être de bonne qualité, qui va durer longtemps, parce que ça te ferait chier qu'il soit cassé 2 semaines après, quoi. Parce que tu dépenses quelque chose qui a beaucoup de valeur. Donc, tu achèterais, n'importe quel objet mécanique ou électronique, bah, tu veux qu'il dure 100 ans, quoi. Au lieu qu'il dure 5 ans, parce que de toute façon, on s'en fout, on va aller au plus vite possible et tout et tout, quoi. Donc, moi, et je pense que c'est vrai, en fait, pour n'importe quelle personne qui a acheté du Bitcoin, qui a tenu ça pendant 4 ans, puis qui a vu la valeur multipliée par 10, forcément, tu réfléchis à tes achats, quoi. Tu sais que ce que tu dépenses aujourd'hui, ça vaut peut-être fois 10, fois 100, fois même 1 million dans le futur, quoi. C'est la réalité. Et là, c'est pour tout le monde qui écoute, là, mais si tu achètes un truc aujourd'hui, tu as le choix entre acheter ton truc ou acheter du Bitcoin. Et ton Bitcoin, mon pari, c'est que dans 20 ans, il vaudra peut-être 100 fois plus. T'sais. Donc, il faut que tu réfléchisses intelligemment. Et donc, tu dépenses moins, tu utilises mieux tes ressources, tu fais la décroissance, tu améliores la qualité des choses. Tu as une économie qui est plus basée sur la réponse des vrais besoins des gens plutôt que des faux besoins créés artificiellement. Parce qu'en plus, quand tu es dans une économie où la consommation est poussée le plus aujourd'hui, et bien là, tu as une espèce de compétition pour que les gens achètent ton produit. Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fais plein de publicité. Parce que tu veux que... Tu sais que les gens vont dépenser l'argent, tu sais qu'il y a plein d'offres. Ah, il faut acheter mon savon de vaisselle, c'est le meilleur. Et donc, tu dépenses de l'argent à faire de la pub pour des trucs que les gens n'ont pas besoin pour leur faire... Et alors là, en plus, tu leur fais croire que ça va les rendre heureux, tu sais. Parce qu'il faut impérativement qu'ils achètent ton truc parmi les autres. Et donc, tu fais des pubs mensongères où, par exemple, Coca, on te vend ça comme si tu allais être heureux, bah, alors que c'est de la merde, tu vois. Enfin, et c'est ça que ça fait l'argent fiat. C'est fucked up, mais ça, culturellement et mentalement, c'est mauvais, quoi. C'est très, 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 très mauvais. Et le Bitcoin, bah, forcément, je fais un podcast parlant de Bitcoin, donc je suis biaisé, mais moi, ça me fait dire que ça amène les gens à penser plus long terme. Puis, il y a aussi une autre dimension, c'est que ça te fait penser long terme, tu sais, ça te fait penser à dans 5 ans, ça te fait penser à dans 10 ans, tu sais, ça te fait faire des plans, ça te fait penser au futur et tu as besoin de penser au futur pour le créer. Donc, tu sais, ça change vraiment plein de choses qui, d'après moi, sont positives pour la santé mentale des gens, quoi. Au-delà même de toute question économique, quoi. C'est juste, c'est mieux d'arrêter d'acheter des objets en croyant que ça va te rendre heureux. Là, c'est pas vrai. Ça te rend pas heureux, des objets.
Effectivement. Mais ça, c'est une autre question que le Bitcoin. Et alors, oui, encore une question. Les autres crypto-monnaies, bon, je reprends. Alors, aux alentours du Bitcoin, il y a d'autres crypto-monnaies. Vous les évacuez assez rapidement. Pourquoi?
Mais alors, je te dirais, c'est un long processus mental par lequel je pense beaucoup de Bitcoiners passent. C'est-à-dire que au début, tu arrives dans le monde des crypto-monnaies, mettons. Là, tu vois le Bitcoin. Ah, ok, cool. Après, tu dis, oh, mais c'est trop tard. Je suis arrivé trop tard. En plus, ça, c'est une technologie qui avance pas. Ça sert à rien. En fait, t'as pas compris ce que c'était. Mais t'as tes idées arrêtées, comme c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, vu que j'ai rien compris, mais que tu sais pas, tu dis, je vais être plus malin que tout le monde et je vais trouver un autre projet crypto qui, lui, va être mieux que le Bitcoin et lui va me rapporter plus parce que le Bitcoin, c'était trop tard. Fait que là, tu pars dans la jungle des cryptos, tu vois plein de projets qui vendent des améliorations techniques de toutes sortes, qui promettent des trucs farfelus. Mais tu le sais pas parce que tu connais rien en fait. T'as même pas compris c'est quoi Bitcoin. Donc n'importe quoi qui va t'être dit, tu vas le prendre comme presque argent comptant que bah oui c'est trop bien et tout. Puis en plus ça a monté il y a 5 mois. Donc tu dis ah ouais c'est bien. T'sais. Et donc tu fais ça, tu gagnes un peu d'argent, t'en perds potentiellement aussi beaucoup. Et puis il y a un temps où tu commences vraiment à creuser les choses, c'est-à-dire ok mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le Bitcoin en fait? C'est quoi que j'ai acheté? C'est quoi qui s'est passé et tout? Puis là quand tu creuses vraiment profondément. En général, tu vas te rendre compte que ton projet de crypto, il est basé sur des mauvais principes qui ne fonctionnent pas. Que le Bitcoin, lui, par contre, est basé sur une structure solide et stable et éprouvée par le temps. Que les défauts qu'on attribue au Bitcoin, comme sa lenteur ou sa consommation énergétique, ne sont pas des défauts, mais c'est des qualités choisies exprès pour créer un système robuste. Tu commences à avoir une compréhension qui est, entre guillemets, multidimensionnelle. Et là, d'un coup, pour toi, ça te semble évident que le Bitcoin est meilleur que les autres cryptos. Entre guillemets. Mais c'est un long processus. C'est pour ça que nous, on essaie de dire aux gens, franchement, perdez pas votre temps, quoi. Commencez par comprendre le Bitcoin et après, vous verrez de vous-même que c'est supérieur aux autres cryptos. Tu sais, c'est un peu ça. Après, le truc, c'est que si tu veux répondre à chacune des cryptos individuellement pourquoi le Bitcoin est meilleur, bah, tu vas passer un temps long parce que des projets crypto, il y en a des milliers et t'as pas un temps long de milliers d'heures à chaque fois aller expliquer que ouais, mais ça marche pas pour telle raison, ça marche pas pour telle raison, t'as pas un temps infini. Donc c'est pour ça qu'il y a un peu ce discours de les autres trucs c'est de la merde pour essayer d'accélérer la discussion et de dire ben, regarde le Bitcoin. T'sais. Mais on pourrait commencer par exemple avec Ethereum qui est comme le deuxième gros projet crypto, mais Ethereum c'est un projet où t'as pas cette dimension de décentralisation que tu as avec le Bitcoin. Avec le Bitcoin, c'est très facile d'être un nœud du réseau. Donc être dans le réseau Bitcoin, c'est assez facile. T'sais, il te faut un peu de matériel. Une connexion Internet, puis c'est fini quoi. Avec Ethereum, c'est pas le cas. Le fait de tourner un nœud Ethereum, c'est relativement compliqué. Il faut plus de matériel. Et plus le temps avance, plus ça devient compliqué. Donc, au fur et à mesure du temps, tu as de moins en moins de nœuds. C'est de moins en moins un réseau. Ça ressemble de plus en plus à un Google, tu vois. Parce que t'as pas de copie de ta blockchain. Tu as moins cette décentralisation. Ça, c'est un point. Mais après, Ethereum, un autre point, ce serait à 70% des unités ont été pré-minées. Ça veut dire que les mecs qui ont créé Ethereum, ben, ils ont créé 70% de la surface, ils se la sont attribués, et puis je pense que ça a été utilisé à la vente, ce genre de choses-là, mais tu n'as pas du tout les mêmes prémices que Bitcoin. T'sais. Ethereum, tu as aussi un autre problème, ça va être la figure centrale de Vitalik Buterin, là, je ne sais pas comment on dit, Buterin, je ne sais pas, qui est comme une espèce de Jésus Ethereum, c'est le gars qui a inventé le truc, et quand lui dit une chose, ben, ça a beaucoup de poids, t'sais. Ça veut dire que tu as une figure de leader dans le système. Et ça, c'est terrible, parce que si tu es un leader, ben c'est là que tu attaques le système. Si tu es un État et que tu veux coopter le système, tu veux réussir à le contrôler, ben tu vas parler au leader. Tu fais ça discrètement. Tu vas lui proposer des sommes d'argent, tu vas lui proposer des trucs, toutes sortes de choses, du pouvoir. Tu peux faire n'importe quoi. Tu peux tenter de le corrompre. Tu n'as pas ça avec Bitcoin. Tu sais, c'est toutes tes petites choses qui misent les unes sur les autres font que ben, ça ne se compare pas, quoi. Et puis un autre truc, c'est que le Bitcoin, il a pour vocation d'offrir ce terrain digital sur lequel les gens peuvent stocker de la valeur ou du temps. Les autres cryptos, c'est pas ça qu'elles font là. Elles font d'autres petits trucs, je sais pas quoi là, toutes sortes de choses. Mais l'impact social d'avoir cette surface digitale est tellement grand, d'après moi, que ça dépasse toutes les autres causes, si tu veux. Tu sais, on prend l'exemple tantôt de la consommation. Mais si tu es capable par le bas de changer le processus de consommation des gens et que les gens arrêtent de consommer comme des malades parce qu'ils croient que ça les rend heureux. Là, en termes de changement climatique, tu as déjà un impact, tu sais. C'est con, mais. Et ça, c'est juste un exemple des impacts de Bitcoin. Bitcoin a des impacts vraiment sur plein, 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 plein de dimensions. Bref. C'est ça qui fait qu'il y a cette espèce de penser que Bitcoin est supérieur. Mais c'est pas. Enfin, c'est basé sur beaucoup, entre guillemets, d'expériences, quoi. C'est beaucoup de recherches qui font qu'à la fin, on se dit, bon, ben, c'est tout, là. Bitcoin est supérieur, puis c'est comme ça, quoi.
D'accord. Tu as dit aussi que le Bitcoin était meilleur que l'or pour backer.
Pour moi, ça, c'est parce que si je veux stocker de la valeur du travail, de l'énergie, donc en gros, si je veux stocker vraiment ça de la valeur, pour moi, le Bitcoin est supérieur parce que l'or, si j'en achète à un marchand, je sais pas si c'est de l'or, je peux pas le vérifier. Qu'est-ce que c'est de l'or ou est-ce que c'est un truc qui ressemble à de l'or? Aucune idée. Si le prix de l'or monte, ben on va en miner plus, donc la quantité d'or va changer. Donc je sais pas combien d'or il va y avoir dans le futur. Si on se projette même à vraiment plus long terme, là, dans 100 ans, 200 ans, et qu'on est en train de miner sur des astéroïdes, peut-être que la quantité d'or sur Terre va être ridiculement petite comparée à ce qu'on va ramener de l'espace. Des petits trucs qui font que l'or n'est pas intéressant. L'or, je ne peux pas le téléporter au Salvador si je veux, quoi. Je ne peux pas créer de réseau Lightning dessus. Je ne peux pas inviter des gens à développer dessus. C'est joli, mais ça ne bénéficie pas de l'effet digital du Bitcoin. Ça ne bénéficie pas de cet effet de réseau que le Bitcoin offre. Et dans la nature, les effets de réseau, c'est une force motrice extrêmement puissante, quoi. Tu sais, il y a beaucoup de parallèles qui sont faits entre le Bitcoin et les champignons, le mycélium. Le mycélium, c'est un réseau souterrain qui sert comme couche essentielle à la forêt parce qu'il va avoir cet effet de je recycle les trucs, je transporte les nutriments d'un endroit à l'autre. C'est le réseau, c'est quelque chose de très 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 puissant que l'or n'a pas. Et le Bitcoin, il l'a. Et il a cet effet, c'est comme le Bitcoin, c'est comme le mycélium de la conscience humaine, quoi. Il va venir là où il y a des déchets, comme de l'énergie gaspillée, il va l'absorber, il va permettre ensuite de transférer, pas des nutriments, mais de l'information ou de la valeur d'un point à l'autre de la planète. Et ça le met dans une autre catégorie que l'or pour, à mon avis, supporter le stockage de valeur pour les humains,
Alors, ici, une question, tu vas peut-être la faire sauter, mais c'est pas grave.
quoi.
Incoda Venenum, une dernière remarque. La féministe en moi a bondi en entendant dans le 14e épisode l'expression la ménagère. Et encore heureux qu'on n'ait pas ajouté de 50 ans. Comment peut-on encore employer au 21e siècle un tel cliché sexiste?
Comme ça là, c'est parce que voilà, on fait des erreurs, quoi. Si tu prends les raccourcis et des fois les raccourcis c'est pas les bons et donc tu dois apprendre à prendre les chemins qui sont les bons, quoi.
D'accord, je vais la sauter, hein, mais fallait que
Non,
je la...
mais je vais la laisser parce que moi je pense que c'est des questions importantes. C'est-à-dire que il faut, à mon avis, ne pas tant enfermer les gens dans des cases et assigner d'avance des rôles à des personnes, c'est les empêcher de s'exprimer comme ils désiraient l'exprimer. Donc, je suis d'avis de ne pas le faire, quoi.
Eh bien, Emmanuel, je te remercie d'avoir éclairé ma lanterne. J'espère que ça a pu profiter aux autres,
Ouais,
auxquels
c'est sûr.
mes questions n'ont pas trop idiotes ou trop bateaux. Mais
Ah, je crois pas,
un
je crois
tout
pas.
grand merci en tout cas.
Bah,
Et
merci à toi, maman.
j'attends impatiemment les prochains épisodes.
Merci beaucoup. Bisous, bye.
Bisous.